Jazz, du groupe de travail Jazz. Et nous sommes ici pour vous parler un peu sur le du travail que nous avons fait. C'est un sujet très très important pour nous. Donc nous soutenons les candidats en provenance des pays en développement pour lancer des registres et des programmes sur les nouveaux GTLD. J'ai quelques membres du groupe de travail qui sont avec moi et qui jouent des rôles très importants pour élaborer les rapports et faire les recommandations du gauche à droite. Vous avez Tijani Benjema, qui est un membre de ALAC, de la région africaine, Alan Greenberg, qui est membre de Atlarge et liaison GNSO, Avri Doria, qui est ancienne de GNSO, maintenant elle fait partie du groupe Atlarge, et ensuite Andrew Mack, qui est du groupe GNSO, et Evan Libovitch, un membre d'ALAC, de la région Amérique du Nord, et bien sûr Cheryl Langdon Orr, membre d'ALAC, en provenance de la région Afralo et vice-présidente d'ALAC. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc bientôt, je voulais vous dire que cette question est de grande importance pour Atlarge. À l'opposé de ce que vous avez peut-être entendu, ça fait partie de l'agenda Atlarge depuis 2009, lorsque nous avons assisté au sommet Atlarge Mexico, et on a pensé que c'était très important pour la globalisation de l'agenda ICANN, pour qu'ICANN élabore des manières concrètes et discrètes pour montrer son soutien en vue de la de l'inclusion des économies en développement et un pays en développement dans l'espace de politique des nombres et des noms. Donc ça a été vraiment un parcours difficile. Nous nous sommes rencontrés depuis juin 2010, deux fois par semaine, au cours d'une téléconférence, et nous pensons avoir produit de bons rapports intérimaires qui ouvre la voie pour ce rapport final. Nous pensons avoir traité cette affaire du mieux que nous avons pu, étant donné les circonstances, et nous espérons que cela, que vous verrez que vous vous sentirez obligé de fournir votre soutien à ces recommandations et les prochains étapes dans la mise en œuvre de ces recommandations. Ensuite, je vais passer la parole aux présentateurs principaux, Avri Doria et Alan Greenberg. Merci beaucoup. J'ai oublié de mentionner mon coprésident. Malheureusement, il n'est pas ici. Il y a une chaise réservée pour lui, Rafik Dama, qui est encore absent pour le moment. Il est membre de SSI du GNSO. Il devait assister à distance à partir du Japon, mais malheureusement, il n'est pas avec nous. Donc, Rafik, si vous nous écoutez, merci pour votre travail et nous espérons que vous êtes là et que vous vous réjouissez avec nous. Merci. Avri. Alan. Bien, merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et nous aimerions passer rapidement en revue la présentation. Si je vais trop rapidement, dites-le-moi, mais on veut laisser assez de temps pour une session Q&A plutôt que de vous lire un résumé que vous avez déjà dans la main. Donc, nous allons passer en revue quelques questions, en commençant par la terminologie. Le groupe de travail était en pleine confusion et on utilise des termes et on veut bien s'assurer qu'il n'y a pas trop de confusion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Nous aimerions vous en parler et ensuite on aimerait passer maintenant au contenu du rapport lui-même. En termes de terminologie, nous utilisons, et j'espère que nous utilisons de manière consistante dans le rapport, le mot « candidat » comme quelqu'un qui cherche à obtenir une assistance. Donc, un candidat devient un candidat approuvé, il devient bénéficiaire. On réserve le terme de « demandeur » pour un candidat dans le cadre du processus GTLD. Sinon, nous allons embellir les pinceaux. En termes des informations les plus importantes, la politique originale qui sont découlées du GNSO ont rendu clair que le processus devait être pour retrouver les coûts, c'est-à-dire qu'on ne devait pas facturer les anciens demandeurs, mais cela disait explicitement, surtout pour des choses telles qu'ils demandaient l'assistance des pays en voie de développement, c'était acceptable. Donc il n'y avait rien dans les orientations précédentes qui contredisait cela, que rien ne disait que la charge devait être uniforme. Nous avons à Nairobi, ce qui était là depuis longtemps, les discussions portant sur l'assistance des candidats ont commencé vers 2006, des demandeurs. Et il y a toujours eu une discussion et les questions soulevées sur toutes les versions du guide, les réponses tendaient à être la suivante. Allons attendre jusqu'au second tour. Moi, personnellement, je pensais que si nous avons fait quelque chose de modéré, nous ne serions pas dans la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas. Donc, nous avons la résolution du directoire et nous avons une résolution postérieure pour assigner 2 millions de dollars au processus et suivi par encore davantage d'autres recommandations telles que celle du GAC de Halak qui recommandait de manière très explicite une réduction des coûts, des charges, en outre d'autres niveaux de soutien non monétaire et un soutien monétaire atteignant les 2 millions de dollars qui devrait être approuvé pour recevoir l'assistance. Tout ça a été discuté. Comment on devrait prendre une telle décision, quel soutien, quelle assistance devrait être fournie, comment le processus de soutien devrait fonctionner, comment il s'intègre avec le processus du guide du demandeur. Quand est-ce qu'on devrait offrir de l'assistance? On revient à la discussion de 2006. Il y avait des opinions très fortes dans la communauté qu'on devait offrir l'assistance pour permettre aux demandeurs de participer dans les délais. On pense qu'il y aura un second tour, mais étant donné le processus de révision, nous ne savons pas vraiment. Et nous pensons que pour être inclusif, le programme doit permettre une assistance pour ceux qui le peuvent. Il y a beaucoup de discussions dans la communauté, je suis sûre, au sein du directoire, sur l'importance d'un nouveau GTLD, comment définir un qui soit crucial, qui va désautonomiser les gens. On pense que, comme on disait dans la publicité, l'impact est les nouveaux GTLD ont un impact énorme dans le monde et vont impacter vraiment de nouvelles économies. On ne peut pas avoir une position différente. Si on pense qu'il y aura un impact important, donc ça aura un impact important sur les pays en voie de développement également, mais c'est difficile de quantifier cela. Et surtout, nous incluons les IDN, GTLD pour la première fois. Ce marché a été la cible du programme CCTLD-IDN, mais on dit que le programme, ce programme GTLD aura un grand impact pour le reste du monde. Il n'y a aucune raison de penser que les scripts et la langue qui ne seront pas desservis bien par les CCTLD et ainsi qu'il y a un potentiel pour avoir un grand bénéfice. Et qui est qualifié pour obtenir l'assistance? Beaucoup de discussions là-dessus. Lorsqu'on a lancé le processus, nous avons dit que nous avons commencé. Comment définir une organisation pauvre ou un individu pauvre? On a réalisé rapidement que la pauvreté à elle seule ne peut pas constituer le seul critère. C'est crucial que nous tenions compte de leurs plans et des avantages sociaux à en tirer. Ça va, OK, si les gens veulent investir leur propre argent, mais s'ils nous demandent de notre argent à nous, alors nous avons un droit, comme n'importe quelle organisation d'honneur au monde, d'évaluer ce qu'ils essaient de faire et de prendre une décision. Est-ce que cela vaut la peine de les soutenir ou pas? Est-ce qu'il y a un manque implicite d'équité, alors que cette décision de détermination, ils vont être rejetés de manière non équitable, donc on a pensé que c'était plus important d'avoir ce mécanisme plutôt que de... Ça vaut mieux rejeter des bonnes candidatures que d'accepter les mauvaises. Donc on essaie de soutenir cette philosophie à travers tout le rapport. Nous avons fourni quelques directives, certains ont des failles, mais en termes d'identification des candidats potentiels, on établit des listes américaines, on regarde des organisations, des ONG, de la société civile à but non lucratif, mais nous ne retirons pas non plus automatiquement les opérations commerciales. On ne veut pas éliminer quelqu'un parce qu'il aimerait faire de l'argent à long terme. Le critère, en fait, c'est est-ce qu'ils ont une motivation justifiée pour cela? Est-ce qu'ils ont besoin de l'assistance et qu'ils montrent qu'ils en ont besoin maintenant? Nous avons identifié quelques groupes et des candidats potentiels que nous ne soutiendrions pas. On a, bien que le guide du demandeur ne le définisse pas, vous voulez qu'un GTLD soutienne votre opération commerciale, c'est votre affiche. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas soutenir quelque chose qui est une marque commerciale, mais si le ton est que c'est un point marque, nous ne voulons pas le soutenir. Le gars qui est revenu à dire qu'il pensait qu'on retirait les gouvernements nationaux, mais pas forcément les autres. C'est encore une discussion en cours parce que nous n'avons pas au sein du groupe l'expertise pour définir et trouver les points spécifiques. Ce qu'on a trouvé, ce que nous avons pu trouver, mais on pense que cela devra être ajusté entre maintenant et la fin de l'année et probablement lors de discussions avec le GAC. Les noms géographiques, c'est quelque chose qui était très, très difficile à juger, mais ceux-ci ne font pas partie de nos compétences. Si vous ne faites pas votre cas, vous n'argumentez pas pour défendre votre cas, alors c'est pas à nous de le faire. Il y a également des questions, dédoublement. Si vous êtes un criminel, et on pense qu'il est nécessaire de les mettre là parce que vous verrez dans un moment le processus de décider si nous supportons un candidat ou non. Je suis désolée. Donc, avant la révision guide, donc on a besoin tout juste de clarifier cela et sinon on va vous dire ça ne vaut pas la peine que vous appliquiez pour être approuvé. L'intention est que nous ne vous demandons pas de contourner les règles pour le système de nom de domaine, mais une fois que vous êtes approuvé, vous devrez vous êtes à la même enseigne que tout le monde. On a parlé dans la communauté que nous avons réduit les conditions exigées au niveau technique, mais je ne pense pas que ça, on a mis ça dans le rapport, mais c'est discuté comme si ça était accepté déjà. Comme je mentionnais auparavant, nous sommes partis très rapidement, tout simplement au départ, on regardait les questions d'ordre de pauvreté jusqu'à maintenant des questions d'intérêt général. Nous pensons vraiment que les TLD vont desservir l'intérêt public et cela peut aller depuis jusqu'à l'accès aux groupes linguistiques et scripts qui ne sont pas bien desservis, des communautés ethniques, des langues sous-desservies. Nous pensons que ce n'est pas quelque chose qu'ICANN devrait supporter. ICANN ou les gens qui, j'espère, nous aideront en prélevant ces 2 millions de dollars. Nous recommandons que la charge baisse jusqu'à 47 000 $. Beaucoup de questions ont été portées. Comment est-ce qu'on a trouvé ce chiffre? Je ne suis pas celui qui a trouvé ce chiffre, qui l'a fixé. Donc, c'est un quart du montant total arrondi. Je pense que c'était un chiffre qui y avait trouvé après une analyse, après un montant total de 185 000 $. Mais je crois, en fin de compte, c'est un nombre raisonnable et nous pensons que cela réduit le seuil vraiment de manière importante et cela quand même porte une demande raisonnable que le demandeur devra satisfaire. Donc les frais restent faibles, mais il doit y avoir quand même un soutien financier pour l'ensemble de cette procédure. Nous recommandons une augmentation des charges de demande d'application. Si vous rappelez correctement, dans le processus actuel, avec l'ensemble des 185 000 $, si un candidat ne va pas jusqu'au bout du processus, nous lui rendons de l'argent. Donc, ICANN ne devrait pas prendre. Donc, l'applicant a le bénéfice du doute si ICANN ne reçoit pas tout l'argent. L'instrument de continuité a été soumis à beaucoup de discussions. Il y a plusieurs manières que nous pensions que cela puisse être réduit. Premièrement, il y a un sentiment général dans la communauté que le nom général était trop orienté vers les TLD pour abus lucratifs. Et ils vont les vendre à d'autres personnes, donc il faut garder ça dans un but commercial. On pense que beaucoup des TLD ne vont pas entrer dans cette catégorie. Si nous devons les garder opérationnels, alors nous devons garder les domaines dans la racine. On n'a pas besoin d'en ajouter. Il y a des gens dans notre groupe qui pensent que s'ils n'ont pas survécu, c'est pas grave. Donc, il n'y a que les frais de fermeture. Cela doit être abordé quelque part. On parle également, on parle d'avoir des consortiums pour partager les coûts sur l'hypothèse que pas tout le monde va manquer, va échouer le même jour de la même manière. Et finalement, il y a toujours eu une hypothèse dans la communauté qu'il y aurait une manne et des profits dans toute cette histoire qui serait attribuable aux ventes aux enchères et autres processus. Mais en 6 ans, c'est que cet argent ne devrait pas rentrer dans les coffres généraux d'ICANN, mais dans une fondation pour faire du bien. Une des bonnes choses, mais pas forcément la seule, c'est ce processus GTLD. Nous devons repayer l'argent, ou bien devrait aller au cours du second cycle et raffiner le processus. La réduction des frais devrait être le seul article qui soit le plus discuté. Il n'est pas bien compris et je crains que le dernier rapport n'a rien fait pour clarifier les choses. Je vais vous donner ma version, mais il y a des variantes, mais il est important de comprendre que c'est possible de le faire sans impacter la nature de recouvrement des coûts. ni sans impacter le budget d'ICANN. Le processus GTLD original, nous avons espéré qu'il serait lancé en 2009. Pour ceux qui ont des calendriers, c'est déjà passé. Donc, une fois que cela a été dépassé, si vous rappelez, les 185 000 avaient un article de 25 000 $ pour repayer les frais de développement dans la réserve ICANN. La théorie était que c'était une théorie controversée. C'est que les coûts ont été engagés dans l'année où ils ont été encourus et le budgété contre les retours à la réserve. Et finalement, les coûts ont augmenté. ICANN a eu deux possibilités. Ils pouvaient augmenter les 185 000 pour couvrir tous les coûts de développement au cours du premier cycle. Je pense qu'ICANN a pris une bonne décision en disant « nous allons différer le retour sur plusieurs cycles et en espérant qu'il y a d'autres cycles, sinon on aura un problème de réserve. » Ensuite, avec un peu d'analyse, avec le nombre de demandes que nous pouvons gérer, la réduction de frais peut être financée de la même manière. Nous différons et le retour à la réserve. S'il y a des profits supérieurs à ce qui est anticipé, donc tant mieux. Mais sinon, nous avons différé le retour à la réserve pendant un certain temps en permettant au cycle d'être tout à fait inclusif et de permettre aux candidats, aux demandeurs, sinon qui n'auraient pas pu entrer en compétition, de pouvoir le faire. Donc, il n'y a pas d'impact opérationnel sur le véritable fonds. Mais il y a un impact potentiel sur le retour à la réserve, mais c'est un concept que le directeur a déjà approuvé dans sa manière de traiter les coûts, les sunk costs. Donc, pour implémenter cela, donc, nous allons voir, regarder les détails sur combien de demandeurs nous pouvons soutenir. Mais je pense que le plan de mise en œuvre peut trouver un algorithme simple qui va garantir que nous n'allons pas impacter le processus général et tout en fournissant la réduction des frais à la fois GAC et ALAC ont dit qu'ils pensent que serait nécessaire. Et je donne la parole à Avril Doria pour la suite. Merci. Je vais commencer à parler d'autres soutiens financiers qui étaient mentionnés. Et c'est le soutien financé par d'autres sources, dont les 2 millions que le directoire a indiqué, qui mettra à la disposition. Et nous obtenir davantage ou trouver un montant correspondant de contributions, de primes et d'allocation des fonds de mise en vente publique et après que le fonds de réserve ait été repayé. La création de la fondation est quelque chose que nous demandons au directoire d'analyser. On a pensé que cela a été bien au-delà de ce que le JAS pouvait décider de par lui-même, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui disaient s'il y a une telle fondation, s'il y a un tel fonds, il y a d'autres choses qui devraient être faites. Mais le travail du JAS est de se concentrer sur la demande. Donc, on va au directoire et on demande au directoire d'analyser cela. Il y a d'autres questions d'ordre juridique qui surgiraient chaque fois que cette question s'affiche et nous ne savions pas vraiment y répondre. Une chose que nous avions dit, c'est que n'importe quel montant des fonds, d'un tel fonds, même s'il devait être créé, ce serait des choses que le candidat qui aurait été approuvé, qui a créé un nouveau GTLD, pourrait s'attendre de repayer dans la réserve. Et nous, donc, il y aura aussi une continuation et une durabilité de ce fonds. Peut-être qu'on utilise le modèle qui a été utilisé par l'équipe de révision, qui a été tiré de toute la communauté, de travailler avec le personnel ICANN pour investiguer la question, est-ce qu'un 501C peut faire une fondation et quelles sont les autres contraintes juridiques, financières. À chaque fois qu'on a lancé la question, quelqu'un a signalé qu'il y a des problèmes et personne ne pouvait dire quels étaient les problèmes. Donc, encore une fois, on a pensé que c'était quelque chose qui devait être différé à la fois au personnel et à l'action de la commission. Ensuite, le travail pour mettre en œuvre cette fondation, ce fonds, avec plusieurs fonds, on n'essaie pas de prédéterminer ce que cette commission devrait faire et à quoi ressemblerait la fondation. Il faudrait définir les responsabilités, définir les méthodes selon lesquelles il fonctionnerait. Cela présenterait les membres au premier directoire et faire des recommandations au directoire. Voici les propositions de fondation. Veuillez bien approuver par tous les moyens appropriés en fonction des statuts. Et autre chose serait de commencer à obtenir des promesses pour ce fonds. Et ensuite, à la prochaine diapo, je sais que j'ai parlé de plusieurs donneurs et d'autres personnes dans cette équipe. S'il y avait un fonds bien formé, si nous savions qu'il y aurait une gestion responsable de ce fonds, alors peut-être qu'il voudrait bien. Oui, je sais qu'il y a beaucoup mais sans un fonds bien formé, rien ne se passe. Ah oui, et aussi autre chose, nous voulons voir quel était le cadre juridique pour créer un tel domicile juridique pour un tel fonds ou fondation. Donc, il faudrait peut-être faire quelque chose dans un autre pays pour montrer la diversité. Donc, c'était quelque chose qu'on a dit qui devrait être peut-être analysé. Donc, en termes de financement, les allocations généreuses du directoire ICANN, c'est bien sûr une semence très importante, mais on cherche à bien sûr avoir des fonds correspondants et des promesses de dons et des garanties de ceux qui ont eu beaucoup de succès à travers les processus ICANN pendant longtemps. Un des commentaires que je fais, c'est que si les gens donnaient les fonds, les coûts des fêtes qu'ils organisent, ce serait très bien. Ça aiderait beaucoup. Donc, des allocations volontaires, j'ai parlé à beaucoup de CCTLD. Bien sûr qu'ils voudraient faire cela et orienter des choses pour faire des activités dans leur pays, mais ils veulent en parler s'il existe un fonds bien formé. Donc, les registres GTLD et les anciens personnes au poste qui veulent bien les financer. Il y a eu beaucoup de conversations et beaucoup de mais nous devons passer à l'étape suivante et peut-être quelque chose comme le groupe Jazz peut proposer le Jazz Group ne peut que proposer et d'autres personnes pensent qu'il faudrait peut-être recommander certaines choses afin que le directoire puisse l'approuver. Donc, l'utilisation de fonds, et c'est au-delà de la réduction des frais, est en fait pour amener les candidatures de cette personne. Et c'est à cela que nous utiliserions les fonds. Et si c'est un CCTLD qui veut amener son registre jusqu'aux exigences GTLD, que ce soit quelqu'un qui veut appliquer pour avoir un nouveau back-end qui satisfait les exigences techniques ou bien qui veulent satisfaire au DNSSEC ou IPv6. Donc, il y a beaucoup d'exigences qui demandent de l'argent et comme les gens disent, les charges initiales, c'est une goutte dans l'océan. Il y a beaucoup d'autres frais. Et bien que le groupe Jazz dit que tout demandeur a besoin de lancer de leur propre fonds pour montrer qu'ils ont leur propre fonds, parfois sa dépense serait assistée par une une motivation économique, un bon plan économique avec, pour montrer que ce serait une bonne, un bon emploi de l'argent pour faire ce que, qui doit être fait pour pouvoir s'inscrire. Donc, pour être un registre. Donc sur cette diapositive, donc les types de soutien non financier, l'assistance à la préparation de la candidature GTLD, donc la demande doit être en anglais, intelligible et peut-être doit être gérable en anglais. Et cela va peut-être demander une certaine forme d'assistance dans les cas où cela ne pourrait pas être disponible. Donc, on cherche à avoir beaucoup de bénévoles pour pouvoir aider les gens, pour aider les gens avec la compliance IPv6 qui est exigée pour tous les registres. Pas forcément tout le monde l'aura, mais on doit faire des actions diverses pour qu'ils puissent réunir toutes les conditions. Et cela doit venir des gens qui ont la capacité IPv6, qui peuvent fournir largeur de bande, etc. La consultation et l'éducation, la formation demande, le DNSSEC, et même la mise en œuvre du DNSSEC, c'est pas encore universel et ça demande de l'assistance. Et avant de changer de sujet, j'aimerais prendre encore une diapositive supplémentaire. Nous n'avons pas de diapositive là-dessus, cependant, mais c'est d'abandonner toutes certaines exigences techniques. Nous ne recommandons pas cela. Il y a une recommandation qui dit que peut-être une exigence DNSSEC pourrait être reporté pour certains nouveaux registres, mais il n'y a pas d'abandonnement pour les exigences techniques, y compris pour le IPv6. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait demander pour tous, mais la décision était, du groupe était de non. Que ce soit une décision politique ou de nature technique au sein d'ICANN, que tout le monde devait faire le V6, ça a été accepté. C'est quelque chose qu'on n'a pas demandé à être reporté. Donc, j'aimerais prendre cette tangente et dire que j'ai participé dans beaucoup de pièces où les gens disaient nous sommes contre l'abandon des exigences techniques et peut-être un renvoi temporaire sur la mise en œuvre du DNSSEC. Il n'y a aucun abandon d'aucune exigence technique. Pour revenir aux efforts de sensibilisation, la logistique, de traduction, les soutiens techniques, est-ce que vous demandez à ICANN de le faire? Non, ce que nous demandons à ICANN, c'est, comme organisation centrale, c'est de servir de personnes qui mettent deux personnes en contact, donc d'intermédiaires entre deux autres personnes. Et donc, ICANN a déjà commencé à le faire. Ça a été l'une des premières demandes que nous ayons. Donc, on travaille déjà là-dessus, mais cela en fait encore partie des recommandations du groupe.
Les prérequis d'éligibilité doivent inclure la notion de services spécifiques pour l'intérêt public, besoins financiers et besoins de compétences. Donc, on ne parle pas seulement de la... Il faut montrer qu'on a un plan commercial, qu'on a des capacités financières pour être capable de faire quelque chose. Mais on part du principe que la capacité financière qui est raisonnable dans un secteur de développement n'est pas nécessairement la même capacité qui est nécessaire pour Marie Daniel Ray ou dans une région développée, qu'il y a donc une différence et qu'on essaye de s'adapter à cette différence. Pour différents critères, ces différents critères devraient être des critères éliminatoires. Un des problèmes qui a surgi, c'était une difficulté, c'était l'interdiction d'adopter pour les marques adoptées. Dans beaucoup de cas, il s'agissait d'ONG ou de communautés ou de cultures qui avaient utilisé ce système de nom de marque ou de marque commerciale pour protéger leur propre nom ou leur propre langue ou le nom de leur ONG. Et par conséquent, ce n'est pas une marque commerciale. Et le fait d'avoir une marque commerciale n'est pas une barrière. Si on doit être une ONG, si on doit être un demandeur culturel et si on a une marque commerciale en outre qui est associée à ce nom, ce n'est pas une raison pour être disqualifié. Donc la ligne ici est importante. Dans la mesure où on a un directoire, un groupe qui va réviser ses candidature, on a besoin d'une ligne sur laquelle on va marcher. Donc, tous les candidats devront fournir une déclaration qui dise « nous avons besoin de cela », mais ils doivent le démontrer aussi. Ils doivent présenter des rapports annuels ou des équivalents concernant l'aspect culturel croisé de tout cela. Tous les groupes de tous les pays n'ont pas le même niveau financier de rapport financier. Donc, ce rapport financier ou un équivalent, par exemple, des relevés bancaires, tout ce qui est approprié pour la communauté, la culture dans laquelle cette demande est faite. Ensuite, un projet est financé qui répondent aux objectifs du projet. Ces prérequis veulent dire vous ne pouvez pas être un groupe seulement qui se forme en disant on veut faire quelque chose, on va avoir un GTLD, voilà une bonne idée. On attend de vous que vous soyez une communauté établie, une ONG établie, quelqu'un d'établi qui a démontré qu'il pouvait accepter, recevoir des fonds et les utiliser honnêtement, avec transparence, qu'il y a quelqu'un comme par exemple la Banque mondiale ou quelqu'un, un bailleur de fonds qui dise de vous, oui, c'est un candidat qui a reçu de l'argent auparavant et qui a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire avec ses fonds. Donc, le rapport financier, des lettres de référence concernant votre capacité à monter quelque chose de soutenable, tout ce qui montre les qualifications du candidat vont être donc requis. Une évaluation, ce processus d'évaluation est de nouveau, on a à nouveau des acronymes qu'on ajoute dans notre liste. Bien, mais nous pensons que c'est un processus qui doit avoir lieu avant la révision de la demande de GTLD. Donc, avant que la demande soit présentée, avant que la candidature soit présentée, on voudrait commencer. Et même pendant la période de demande de candidature, les prérequis de la période de candidature doivent être appliqués. Chaque candidature va être révisée par un panel avec des panélistes qui seront des personnes qui appartiennent à ce processus, qui connaissent ce processus, qui savent comment marchent les choses. C'est très important pour nous qu'il y ait vraiment des acteurs principaux dans ce panel, des gens qui peuvent, dès le début du processus, être présents et donner leur consensus, hein, et qui peuvent voir quand quelque chose ne marche pas aussi. Et ces gens-là ne pourront pas être des candidats, bien sûr. Lorsque le panel de révision va refuser un candidat, on devra expliquer les raisons de cela. Ça appartient à notre philosophie, à ICANN. Il faut toujours que nos décisions soient transparentes et expliquées. Bien sûr, le candidat ne pourra pas être, on ne pourra pas refuser à un candidat de se présenter, mais le candidat peut trouver un autre bailleur de fonds. Par exemple, s'il a un problème, il peut trouver une autre source d'aide. C'est possible. Donc, on peut demander de l'aide d'un côté. Hein, et si une demande de candidature ne peut pas être acceptée, on peut demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Imagine une personne qui va demander de l'aide à différentes sources, elle pourra finalement trouver de l'aide. Nous demandons aussi aux équipes d'ICANN d'aider à produire un guide de soutien aux candidats pour aider, pour expliquer comment fonctionne ce guide, hein, et pour qu'il fonctionne avec le guide du candidat. Bien, voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Ici, on voit la description du processus en lui-même. Et donc, les prochaines étapes, c'est pour vous tous. Hein, il vous faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et nous demandons aux directeurs de considérer cela. Nous demandons aux équipes de commencer à mettre cela en œuvre. Il y a des commentaires publics actuellement qui vont être fermés le 16 décembre. Et donc, on est tous à votre disposition et je suis moi-même à votre disposition. On est tous ici et disposés à faire ce qu'on peut pour vous aider, pour éclaircir quelque chose que vous ne comprenez pas, pour travailler avec les équipes, etc. Et donc, ici, vous trouverez davantage d'informations si vous en avez besoin. Merci beaucoup. Et maintenant, je laisse la parole aux questions. Merci, Avery. Steve. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Bien. Pendant qu'on attend le micro, je voulais vous dire que le rapport est publié, est disponible sur les commentaires publics jusqu'au 16 décembre. Hein? Vous avez donc la possibilité de regardez ce rapport et de faire vos commentaires en ligne si vous le souhaitez. Merci. Bien, d'abord, et mes félicitations. C'est vraiment du bon travail que vous avez fait. Il est clair que vous avez mis beaucoup d'énergie dans cette tâche et c'est vraiment quelque chose de tout à fait positif. Et donc, j'ai été vraiment impressionnée par le travail que vous avez réalisé. Bien, maintenant que j'ai dit cela, on passe à des aspects plus intéressants, qui sont les suivants. Il y a déjà eu des discussions et je sais que certains de mes collègues du directoire et des équipes d'ICANN essayent de se focaliser sur l'impact de ce programme en ce qui concerne les finances d'ICANN. Mais je voudrais dire qu'on devrait se focaliser plutôt sur la viabilité de ce programme du point de vue du candidat et du point de vue des candidats potentiels. Hein. Nous parlons ici et ce qui attire mon attention, c'est le montant qui a été indiqué, qui a été réduit à 47 000 dollars et ces chiffres, hein, et que dont tout le monde parle d'ailleurs, hein, nous le comprenons, c'est le coût d'un nouveau GTLD, c'est un coût qui est supérieur au montant de la demande de candidature qui est de 47 000 dollars, mais vous avez fait une référence claire à cela, mais je voudrais éclaircir un petit peu plus cela. La distinction qui existe entre ce qu'on appelle le CAPEX, c'est-à-dire l'investissement du capital, et les coûts versus les coûts opérationnels. Hein. Je me focalise sur ce problème et parce que je me demande si nous sommes en train d'affronter la possibilité de créer des problèmes, une espèce de cauchemar pour soutenir des candidats qui entrent dans le business et qui font faillite et qui deviennent des candidats non soutenus. Donc, on a créé un problème que l'on va regretter, je pense, hein, parce que ça ne sera pas positif. Ça ne sera positif pour personne, ni pour ICANN, ni pour les candidats, ni pour la communauté d'Internet dans son ensemble. Et ça ne sera pas non plus un bénéfice pour la communauté d'Internet que nous essayons de soutenir ici. Hein. Donc, à mon avis, cela est le premier problème. Est-ce que cela sera efficace et comment est-ce qu'on va construire cela de façon à ce que ce soit efficace? Hein, et que ce soit vraiment une opportunité pour certains et éviter les erreurs. Hein. Dans toutes les déclarations que vous avez faites aujourd'hui concernant le financement, etc., j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, j'ai entendu que les déclarations concernant cela contiennent beaucoup de détails concernant la réduction de ce montant. On dit peu de choses, il y a peu de détails pour comprendre ou peu de présentations pour comprendre l'opération, les coûts opérationnels actuels. Donc pour moi, cela serait un premier souci. Le fait de regarder des candidats potentiels, d'analyser et de prendre ces décisions pour des candidats potentiels, il y a des différents... On peut avoir une perspective de souci, même si on réduit tous les coûts à zéro, ce qui n'est pas possible, mais c'est la première chose à regarder. Et de nouveau, il faudrait regarder le profil d'investissement, la personne, etc. Donc, c'est le plus important ici, je pense, ce que je voudrais souligner. Et je vais m'arrêter bientôt. Une série d'autres petits points que je voudrais soulever ici. Dans la question de l'IPv6 ou du DNSSEC, on a considéré le même type de questions pour structurer le processus de nouveau GTLD il y a quelques années. Et l'idée est de reporter, il y a eu une discussion spécifique, l'idée de reporter les prérequis du DNSSEC a été proposée. Il y a eu une réponse pour ne pas le faire, pour une question de sécurité, mais pour les personnes qui comprennent le processus en lui-même, on a dit cela n'a pas de sens, c'est beaucoup plus cher. Et pour le faire correctement la première fois et ensuite le corriger la deuxième fois. Et il y a eu une réaction presque instinctive de la part de tout le monde, de beaucoup de gens, et je suis tout à fait d'accord avec cela. Donc je pense qu'il est compréhensible, si on regarde cela à la distance, ça peut paraître des coûts additionnels, on ne sait pas ce que c'est, en quoi il consiste. Je comprends aussi qu'on n'a pas l'expertise et ce n'est pas vraiment disponible pour tout le monde, mais ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait un prérequis, une obligation pour que les choses fonctionnent mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je n'ai pas le temps d'approfondir davantage. En ce qui concerne la procédure, l'argent qui va apparaître à partir du processus de mise aux enchères, deux commentaires. D'abord, je suis très conservateur et je pense qu'il faut voir. Et dans le programme de GTLD, on a structuré ce programme de façon à décourager les tentatives de créer ce type de fonds. Et les candidats sont encouragés à travailler par eux-mêmes. Donc, la mise aux enchères est vraiment la dernière ressource. Si cela a lieu, cela a lieu. Mais si l'on a des grands excédents d'une série de candidats, en ce moment-là, cette estimation finale sera correcte. Mais on a beaucoup, on est loin d'être certain. Ensuite, pour une question de politique, nous sommes d'accord. Cet excédent ne sera pas au profit d'ICANN. On va l'utiliser de différentes manières. Ce processus va passer au processus de consultation, mais cela implique aussi qu'il n'y aura pas d'assignation automatique de ces fonds au GTLD pour les objectifs que ce soit. Cela peut aussi inclure certaines de ces possibilités, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire et nous n'avons pas encore eu cette discussion. Par conséquent, je ne voudrais pas et partir du principe que l'on va utiliser cet argent, cet argent va être reversé dans le programme des GTLD. Je pense que c'est une discussion qu'il faudrait que l'on ait. Et puis, en ce qui concerne la fondation, l'idée de créer une fondation, je pense que c'est une très bonne idée. Nous devons réfléchir et voir le travail que cela va signifier, le travail que vous pouvez réaliser pour parvenir à votre objectif. La traduction de tout cela est un grand poids. Le directoire lui-même n'a pas la capacité de faire grand-chose dans ce domaine. J'ai travaillé auprès de, avec le directeur pendant longtemps et on fait passer les messages, on écoute, on prend des décisions, on fait des décisions politiques concernant les opérations corporatives d'ICANN et on délègue notre vers le haut et vers le bas, hein, ou vers l'extérieur. Mais il faut qu'il y ait une espèce de... Des personnes doivent apparaître sur la scène et former une fondation, mettre en place cette action. Hein, et ça ne va pas arriver de façon magique, je dois le dire. Et j'ai bien peur que ce n'est pas parce que le directeur va décider de le faire que ça va arriver. En tout cas, pas pour tout ce qui est cohérent avec ce que vous pensez. Il va falloir faire quelque chose. Avant de faire cela, il faut considérer le domicile, les questions légales. Hein? Donc, n'importe qui peut créer une nouvelle entreprise aux États-Unis. Hein? Mais il y a d'autres choses ici qui entrent en jeu, hein, dans cette situation, dans ce cas-là. Et laissez-moi conclure sur une question que vous pouvez... vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Vous avez la notion du nombre de candidats qui seront acceptés, approuvés. Est-ce que vous avez une idée de ce nombre? L'analyse pour les programmes, le programme de nouveau GTLD parle de 500 candidatures. Est-ce que vous pensez qu'il y aura le même chiffre de candidats approuvés, hein, 20% plus, davantage, le double, hein, et la qualification sera utile pour se focaliser, hein, là-dessus. Ça n'empêche pas que chaque candidat va devoir faire ce qu'il doit faire, mais ça va nous aider à organiser les efforts qui sont nécessaires pour fournir ce soutien aux candidats. Merci beaucoup. Merci, Steve, pour vos observations. Je pense que nous avons 5 questions. La première concernant les opérations. Alain va répondre à cette question. Je parlerai du coût opérationnel et on va parler aussi du DNSSEC et on va parler de la fondation, de la question de la fondation. Et on va aussi aborder la question des attentes pour le soutien aux candidats, hein, et pour avoir un chiffre bien. Je vais donner une réponse rapide. Je pense que pour la viabilité des opérations commerciales, je pense que notre objectif ici était d'avoir un plan d'affaires, un plan commercial régulier qui est demandé pour le soutien, pour la candidature et pour la candidature en elle-même. On ne demande pas, hein, d'avoir un plan d'affaires disponible, hein, qui soit présenté pour le processus de candidature. Toutes ces considérations doivent être assumées, doivent être abordées. Chaque candidat doit s'occuper de ça. Il y a différentes choses ici, hein, comment ils vont s'occuper de cela. Mais il n'y a rien ici, hein, qui a été dit, qui ne doit pas être appliqué. En ce qui concerne... Parce que nous savions, nous avons eu des commentaires. Notre premier rapport, Jalon le disait, et l'argent de la mise aux enchères va aller au nouveau GTLD. Il y a eu des questions, des remises en question. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons dit que nous allions y réfléchir un peu plus. Nous voulons qu'une de ces considérations pour la mise aux enchères, hein, les fonds de mise aux enchères, nous sommes peut-être un peu optimistes, mais je pense qu'il va y avoir de l'argent qui va provenir de la mise aux enchères. Ça ne va pas se faire comme ça entre une personne et l'autre. Hein. Certaines personnes vont devoir finir passer par ce système de mise aux enchères. La dernière chose que je voudrais commenter, c'est le chiffre de... Oui, deux autres choses. Nous n'allons pas organiser la fondation à travers notre équipe. Il y aura un groupe de volontaires qui vont s'en occuper. Et nous essayons de voir un petit peu ces équipes de révision. Nous essayons de trouver des personnes. Je crois que j'ai dit à Chris qu'on peut trouver facilement une série de gens, les enfermer dans une salle et leur dire travailler, hein, faire tout cela. Donc, beaucoup de personnes dans la salle vont vouloir le faire, ils vont le faire. Hein. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais bon. En tout cas, en ce qui concerne le nombre de candidats qui vont réussir, qui vont être approuvés, nous, au directoire, nous pensons qu'il nous faut un objectif concernant le nombre de candidats approuvés qu'on devrait avoir. Et nous pensons que ça va être 10 à 20% maximum. Nous pensons 10% sur 500. Hein, de candidats. Hein, donc, ça serait étonnant. Hein, donc, c'est un peu notre vision des choses. Nous allons. Voilà, nous ne pouvons pas dire que nous savons combien il y en aura, mais nous pensons que ce sera plus ou moins ce chiffre. Bien. Alain Goët du DNSSEC. Alain Greenberg. On cherche un groupe de personnes qui veulent prendre des décisions. On préfère refuser des gens que de les accepter, hein, juste pour avoir ce chiffre, pour parvenir à ce chiffre. En ce qui concerne la fondation, je pense que nous cherchons ici un système d'investissement. Il faut comprendre ce qui est en jeu ici. Le DNSSEC, c'est un groupe de travail. Si vous vous souvenez bien, lorsque le GNSO a été réformé, le directoire a dit au GNSO d'utiliser le modèle de groupe de travail. Le modèle de groupe de travail a des bénéfices par rapport au modèle préférent antérieur, mais il a aussi des problèmes. Hein. Il réunit des opinions solides, des personnes formées, mais on ne peut pas obligatoirement avoir une seule idée. Il y a des personnes dans des groupes qui pensent que le DNSSEC devrait être reporté. D'autres pensaient le contraire, hein, et comme Steve l'a dit, hein, donc nous présentons nos rapports, nous faisons le rapport, hein, nous avons présenté les différents problèmes qui existaient, nous avons dit qu'il n'y avait pas une uniformité d'opinion, mais donc il y a une déclaration dans laquelle on essaye de trouver un moyen pour que les gens qui n'ont pas IPv6 dans leur pays puissent répondre aux prérequis du guide de candidat. C'est pour ça que nous pensons que c'est important et que dans les pays où cela n'est pas disponible, c'est important. En ce qui concerne les candidats approuvés, mon nombre est 10. Si on arrive à 20, je pense qu'on a fait une erreur quelque part. Pourcent, hein, 10%. Hein, puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas vraiment le nombre absolu qu'on aura, mais c'est notre objectif. S'il nous faut assigner des aides financières, des objectifs financiers, hein, je pense qu'on devra avoir un chiffre. Mais merci, Alain. Deux petites choses. La question était que Evry a dit dans sa présentation que l'on cherchait des personnes et qui pourraient et répondre à certains types d'expériences préalables. On voudrait faire une petite précision. Des personnes concernées devraient avoir de l'expérience, mais ça peut être aussi une personne qui a un projet nouveau qui a été mis sur pied pour cette entreprise, c'est clair. Hein? L'autre problème, l'autre question était que concernant le DNSSEC, et nous avons dit que l'expérience était utile pour donc pouvoir se présenter comme nouveau candidat. Hein. Donc, c'était utile. Voilà. Scala Valenti de l'équipe d'ICANN. Et je vais lire donc la question des participants à distance. Nous avons 29 participants à distance et avec Rafik Damak qui est le co-président de cette session. Il m'a demandé de vous remercier d'avoir participé à cette réunion et il recommande à tout le monde de soutenir cela à travers les commentaires publics aussi qui finissent le 16 décembre. Bien, nous avons une première question. Pour Jolie McFay, Les candidats qui vont être approuvés incluent les IDNS et les variantes. La deuxième de Farhan Hassan concerne les communications des nouveaux GTLD et le programme de sensibilisation. Est-ce qu'il y a un plan ou des sessions organisées pour promouvoir et informer les besoins de candidature pour les pays? Est-ce qu'il y a d'autres façons pour aider dans ce programme? Merci. Voyons si je peux répondre à une série de ces questions. En termes de programme de sensibilisation, nous avons eu une conversation à ce propos hier dans la réunion de la LAC et nous avons reconnu que beaucoup de sensibilisation est nécessaire, qu'on n'a pas fait suffisamment de travail de sensibilisation, surtout dans les communautés de l'hémisphère sud. Donc nous savons qu'il faut augmenter le niveau de sensibilisation. Je pense que c'est très important et il faut donc avancer concernant la question du but destiné à cela. Est-ce que ce budget est suffisant? Et il y a beaucoup. Ces 2 millions de dollars sont peut-être un peu insuffisants. Il faut voir comment travailler si, et comment donc faire courir donc le bruit, hein, parler davantage de cette sensibilisation, travailler avec des communautés qui ont la possibilité de travailler sur le marché à travers des communautés commerciales ou quoi, qui savent ce qui se passe dans ce programme et qui peuvent en parler. En termes d'IDN, c'est un thème important. Nous reconnaissons qu'il ne peut pas y avoir de succès dans ce programme si on ne se focalise pas sur les IDN. Et tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire pour encourager la focalisation sur ces nouveaux IDN. C'est important, hein, c'est très important. Merci, Andrew. Merci, Steve Dalbianco. Mes félicitations pour le travail que vous avez fait. Je voudrais parler du regroupement commercial. Je vais vous expliquer et pourquoi je soutiens cela. Nous sommes focalisés sur les utilisateurs commerciaux et registrants. Nous voulons qu'ils aient une stabilité, hein, dans un environnement global. Et lorsqu'on regarde sur le travail du JAS, il y a beaucoup de choses qui sont destinées aux candidats et qui sont moins destinées à l'utilisateur final et au registrant et à la communauté commerciale. Donc, il faut voir. Nous avons déjà couvert la notion de DNSSEC. Et vous avez entendu les contributions faites. Le BC a parlé des différentes opérations. Et maintenant, on a dit que ce type d'opération n'était pas très importante pour certains candidats parce qu'ils ne cherchent pas à vendre le TLD. Peut-être qu'ils veulent seulement le fermer. Peut-être, Alain. Mais peut-être qu'il est vrai aussi que des milliers de registrants ont pris de l'argent pour acheter un nom de domaine, ont changé leur logo, ont changé leur T-shirt, se sont embarqués dans quelque chose qui coûte très cher pour avoir un nouveau TLD pour un candidat. Est-ce qu'on peut abandonner ce type d'opération si le candidat ne peut pas continuer à travailler avec le registrant? Est-ce que ce programme va fonctionner si nous faisons vraiment des TLD, des présentations de TLD aux communautés qui sont mal desservies, aux langues qui sont mal desservies? Et au niveau des critères, il faudrait en tenir compte. Et j'aimerais qu'on aille du bas vers le haut et qu'on ne passe pas à côté de la possibilité de créer des encouragements. Hein, que les gens aient besoin d'argent ou pas, nous devons encourager les gens à travailler dans de multiples langues. Et je pense que c'est important. Je pense qu'il faut que ce soit de l'argent qui est offert. Ce n'est pas une charité. Il faut recommander aux équipes et aux directoires, hein, d'aider les candidats qui vont mettre de nombreuses chaînes dans différentes versions. Hein. Donc, il faut évaluer les candidats. Il faut voir si ces candidats mettent plusieurs chaînes. Et à ce moment-là, essayer de les encourager pour qu'ils construisent davantage de chaînes. Merci. Vous voulez répondre? Oui, très rapidement, Alain, en ce qui concerne Alain Greenberg, en ce qui concerne la possibilité de fermer un nom de domaine. À mon avis, il y a un nombre minimum que le candidat doit présenter pour garder son domaine vivant sur sa route, sur sa zone racine. Si l'on Ce n'est pas quelque chose qui coûte trop cher. Certaines personnes disent on va vouloir le fermer et si vous voulez l'autoriser, OK. Mais ce n'est pas vraiment notre objectif. Nous voulions nous assurer que les registrants n'ont pas un mauvais plan commercial. Et de nouveau, je dirais que c'est un groupe de travail et ce qui sort d'ici, c'est des réflexions. Il faut le considérer comme cela. Donc, l'IDN et la possibilité de... Il nous faut davantage parler sur la question des langues. On ne peut pas éviter cela. Et Cheryl Lang du Nord, nous savons que le GNSO est très, très, très ferme sur cette question et on ne peut pas ne pas respecter la règle de l'organisation préalable. Merci, Cheryl.
Merci, Monsieur le Président. Je suis Mohamed du Sénégal. Bienvenue dans notre pays. Je voudrais d'abord faire écho à ce qui a été dit. C'est un des critères qui concerne beaucoup de gens qui vont essayer de traiter les problèmes des pays en voie de développement. Donc, je voulais dire merci à ICANN de s'occuper de nos problèmes. Merci à tous les volontaires qui travaillent là-dessus. Mais le problème qui doit être couvert pour dans ce cas-là, ce sont des problèmes qui sont si grands que je pense qu'à ce point-là, nous ne pouvons pas envisager tous les problèmes des pays en voie de développement pour les nouveaux GTLD. Si vous faites un effort pour diminuer les frais de candidature pour les pays en voie de développement, c'est très bien. Mais laissez-moi vous poser une question. Si on regarde du point de vue économique, nous voulons que ces registraires, ces nouveaux GTLD, fonctionnent, qu'ils aient un bon marché, que leur business fonctionne. Mais si on regarde la chaîne de valeur sur le nom de domaine en Afrique, on est moins de 100 000 personnes. Nous avons dans le continent, nous avons moins de 5 registres. Donc, si les GTLD ont leur contrat, dépensent leur argent et s'ils veulent que leur business fonctionne, qui c'est qui va les aider? Qui c'est qui va s'occuper de travailler sur le terrain pour garantir que ces personnes, le registrant, l'utilisateur final, va être protégé, va être sûr et qu'il va avoir des contractants, qu'il aura des responsabilités et qu'il va assumer ses responsabilités? Ça veut dire qu'il y a... On n'a pas vu de recommandations en ce qui concerne les efforts à faire pour fournir les liens corrects pour les pays en voie de développement, pour aider les nouveaux GTLD à mettre en place un business correctement pour que le registrant soit protégé dans son travail avec les nouveaux GTLD. Donc, du point de vue commercial, nous devons voir les recommandations. Je ne dis pas que quelque chose doit être fait à court terme parce qu'on en a déjà parlé à Singapour. On a peu de temps pour résoudre ces problèmes. Mais si on ne fait rien comme recommandation du JAS, il n'y a rien, je pense que les personnes vont avoir leur accréditation. Ils vont lancer un nouveau GTLD, mais il y aura beaucoup de problèmes au niveau du marché. Il faudrait voir ce qui va se passer. Merci.
Mohamed, comme on l'avait dit à Singapour, lorsque vous avez soulevé la question la première fois, on était d'accord. C'est un problème crucial à long terme. Et comme vous pouvez imaginer, nous avons tellement à faire à court terme pour essayer de trouver ce que nous avons discuté jusqu'à présent et un budget limité en termes de temps et de ressources. Donc, je crois que c'était l'opinion du groupe, que vous avez tout à fait raison. C'est le genre de choses que nous devrions viser. Et voici une autre raison où on devrait augmenter le pool de ressources et mobiliser encore la communauté pour aborder ce type de questions. Merci. Prochaine question. Je m'appelle Mary Wong et conseiller pour le groupe non commercial NCUC chez Anken. Je suis petite et j'ai un petit micro. Désolée. Merci, Sébastien. nous allons soumettre au forum de commentaires publics, et ça a été également envoyé au directoire. Une différence de la version envoyée au directoire, c'est que depuis lors, d'autres collègues nous ont rejoints du groupe à but non lucratif pour les préoccupations opérationnelles, et on espère que ça va devenir un commentaire. On veut féliciter le groupe sur les recommandations pour permettre le nouveau programme de GTLD pour qu'il donne une bonne chance aux pays en voie de développement. Comme en tant que NCUC, nous voulons l'équité depuis le moment où la nouvelle politique a été discutée. Nous avons continué ceci en ayant des participants dans le groupe de travail. Nous sommes heureux de voir que cet effort est sponsorisé par le GAC et le HALAC. Et encore, exiger encore davantage d'équité. On encourage le directeur à approuver toutes les mesures dans le rapport. Et nous voulons souligner quelques-unes qui ont besoin d'être mises en œuvre et approuvées immédiatement, sans question. La réduction des frais, comme cela a été recommandé dans le rapport, ou tous les candidats vont payer 47 000 $ est nécessaire pour que le programme soit équitable. Même 47 000 $ peut être une difficulté, mais nous voyons le besoin que les candidats aient un certain investissement de leurs propres fonds sans les exclure de faire toute application dans ce cycle. Et nous acceptons les arguments que cette recommandation est consistante avec la recommandation de politique GNSO, et nous acceptons les propositions sur les manières selon lesquelles la portion des fonds de réserve, des frais collectés peuvent être utilisés pour satisfaire les exigences pour les processus d'application autofinancés. Finalement, nous demandons au directoire d'accepter la proposition dans le rapport JAZZ pour un groupe de travail JAZZ pour créer une fondation ICANN. Son premier but serait de collecter et distribuer les fonds pour assister les économies en voie de développement, pour satisfaire payer les autres dépenses, de créer des registres pour desservir les populations dans l'économie des économies en développement. Et nous encourageons ceux qui ont déjà bénéficié de l'industrie du nom de domaine et de l'implication avec ICANN de contribuer généreusement à construire sur les fondements qui a déjà été placé. Et nous voulons, le NCUC encourage tous ceux qui veulent de promettre chacun un fonds en anticipation de sa création. Merci pour votre patience et votre attention. Merci. On a peu de temps, donc nous allons prendre les deux dernières questions et ce sera tout. Merci. Je m'appelle Mathieu V et je suis CEO de AFNIC. Le registre français CCTLD, mais je voulais vraiment féliciter le groupe pour avoir abordé une question si importante. C'était vraiment un défi, même si je dois dire qu'il y a quand même une opposition, ou plutôt le retrait, la réaction négative que le groupe a reçue. Donc, ce serait vraiment un résultat qu'on devrait encourager. Et pour Rafik en particulier, je sais qu'il a été très actif dans tout cela. Donc, je le félicite. Et j'aimerais fournir, en fin de compte, une certaine assistance pour un CCTLD qui a été mentionné dans le rapport. Certains CCTLD voudraient bien assister. Et c'était important d'exprimer ce soutien. Je pense que cela vient à un bon moment où il est crucial que ICANN démontre son engagement à l'intérêt public. Et c'est vraiment une opportunité cruciale pour donner l'idée au monde que ICANN tient en compte le fait que, bien que nous ayons un Internet global, ça ne signifie pas qu'il y ait qu'une taille pour tout le monde, donc une formule pour tous. Donc, nous avons très peu de temps qui nous reste, donc malgré quelques préoccupations, le directoire devra décider de prendre en compte certain nombre de risques, mais il faut prendre ce risque. Pas tout peut être sûr à 100%, mais je pense que l'objectif ici est plus important que les risques et à part le soutien, AFNIC est engagé dans le renforcement de capacité depuis sa création en 1988 et nous allons définitivement augmenter notre assistance pour les initiatives de renforcement de capacité. Nous avons un fonds séparé depuis 1988. Il va être triplé pour soutenir les nouveaux candidats GTLD dans le processus. Donc, nous espérons que ce soutien supplémentaire ne va pas rentrer dans les frais ICANN, mais qui vont permettre de soutenir les candidatures, les initiatives venant des pays en voie de développement. Merci. Prochaine question, nous avons Katim Touré du directoire. Merci. Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de notes, je vais juste parler de... Franchement, je suis tout à fait fière du travail qui a été fait par le groupe de travail JAS. J'ai eu la bonne chance et l'honneur de faire partie, de participer à deux appels et j'étais impressionnée par le travail que vous avez fait. Et pour imaginer que vous faisiez cela deux fois par semaine pendant plusieurs mois, c'est vraiment absolument incroyable. Des années! Excusez-moi, des années. Donc, merci à tous. J'apprécie vraiment. Et le travail est très important pour deux raisons, selon moi en tout cas. La première est que vous aidez le directoire à opérationnaliser un engagement pris à Nairobi quand il a promulgué la résolution qui demandait un programme pour les nouveaux GTLD qui soit inclusif. Donc, je crois que c'est un argument important. Ensuite, également de grande importance, vous nous avez aidé à atteindre, à réaliser les recommandations des ATRT, de l'équipe de responsabilité et de révision. Donc, il faut redoubler les efforts pour établir de meilleurs rapports avec le monde des pays en voie de développement. Et c'est vraiment important parce que ces rapports, selon moi, est quelque chose de grande importance, d'une importance existentielle pour ICANN. On a parlé des conséquences de ce mécontentement de beaucoup de gens dans les pays en voie de développement et de mécontentement envers ICANN. Donc, vous faites quelque chose pour réduire ce mécontentement. Et pas seulement... C'est la bonne chose à faire. Et encore, merci beaucoup. J'ai une question. Et par rapport à la question des 2 millions de dollars que le directoire a engagé à Singapour, ce que j'aimerais attendre de vous, quelle est votre opinion lorsque nous appliquons ces 2 millions de dollars comme report de coûts et l'appliquer à quelque chose d'autre. Et finalement, j'aimerais vous dire quelque chose que certains d'entre vous vont peut-être se rappeler qu'à Singapour, on avait une réunion préparatoire sur le fait de peut-être d'avoir un sommet ICANN. Et c'est vraiment... On a discuté de cela pendant... longtemps et nous allons nous rencontrer à 12h30 jusqu'à 2h PM, vérifier dans l'agenda pour le numéro de salle. Jeudi, nous allons parler encore davantage de cette discussion, pas seulement sur le sommet, mais voir ce que nous pouvons faire pour développer un cadre pour renforcer les rapports de ICANN et les pays en voie de développement. Merci, Katim. Tijani, merci Carlton. Premièrement, j'aimerais dire que le programme JASM n'est pas destiné à résoudre tous les problèmes liés au nouveau GTLD. J'aimerais rappeler que le groupe de travail JAS a été créé selon la résolution 20 adoptée à Nairobi et la résolution 20 parlait des candidats. Donc, on a aborder le problème des candidats. Donc, il s'agissait d'assistance aux candidats qui avaient besoin d'aide et qui demandaient, qui cherchaient à opérer de nouveaux GTLD. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas résolu le problème des registraires, du bundling, donc même si du regroupement, donc même si nous sommes individuellement pour le regroupement, mais nous, c'est pas vraiment notre mission. Donc nous encourageons les scripts AIDN et nous les. C'est un point favorable que nous devons soutenir, mais nous ne pouvons pas aborder le problème du regroupement, du bundling. Merci. J'aimerais dire une dernière chose avant de clore. Un commentaire qui se rapporte à ce que nous faisons ici et en rapport avec ce que Mohamed Diop a dit. Je vais dire quelque chose de radical. On pourrait annuler le programme des nouveaux GTLD, dire c'est fini, on n'en fait plus, on a assez de... TLD, on doit quand même augmenter le nombre de registrés en Afrique et dans beaucoup d'autres problèmes de ce type, que ce soit un problème ICANN ou un problème communautaire. C'est sans intérêt. Le nouveau GTLD exacerbe le problème. Je suis désolée d'interrompre, mais nous avons un autre programme qui commence tout de suite et nous avons beaucoup à faire ce matin. Si nous pourrions clore cette session, j'apprécierais. OK, la clôture a lieu maintenant, mais merci beaucoup d'être venu. Je voudrais remercier le personnel pour son assistance à travers tout ce processus. Gisela, Carla, Glenn, Rob, Seth et tous les autres Cold Springs pour nous avoir soutenus au cours de ce processus. Vraiment, ils ont été très utiles. Et beaucoup d'efforts ont été faits pour organiser cela. Merci tous d'être venus et merci pour votre assistance. Nous vous encourageons de faire des commentaires sur le rapport final afin que nous puissions avoir un meilleur produit. Merci beaucoup.